Vous êtes sur Radio Grand Ciel et voici l'émission Libre Propos. Au micro, Karine Delamer, à la régie, Simon Martin et mon invité, Didier Gougis, responsable de la formation continue sur le diocèse de Chartres. Bonjour à tous, voici l'émission Libre Propos. Le temps des médias n'est pas celui de l'homme. Aujourd'hui, mon invité, Didier Gougis, responsable de la formation continue du diocèse, va nous donner des clés de lecture pour mieux comprendre notre actualité. Bonjour Didier.
Bonjour Karine.
Didier, je suis ravie de vous accueillir parce qu'il s'est passé un événement extrêmement important au tout début de nos vacances, pour ceux qui ont eu la chance d'en avoir. C'est cette rencontre qu'on a qualifiée d'historique entre le pape François et Kirill à Cuba. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, cette rencontre, effectivement, elle mérite le mot historique et c'est rare que le mot soit mérité parce que souvent on l'emploie, on le galvaude ce mot, mais là c'est véritablement historique parce que le patriarche Kirill, donc qui est le patriarche de l'Église orthodoxe russe, a rencontré le pape François à Cuba le 12 février. C'est la première fois dans l'histoire, c'est-à-dire que depuis le schisme d'Orient en 1054, il n'y avait jamais eu de rencontre entre un pape et un patriarche de l'Église orthodoxe russe. Donc c'est vraiment historique,
oui, quand même.
Au sens fort du terme. Alors ils se sont rencontrés effectivement le 12 février à Cuba, en terrain neutre, on pourrait dire. Hein. Et en même temps, c'est comme une coïncidence, puisque le pape François partait pour aller en Amérique latine, et le patriarche Kirill également allait faire un voyage en Amérique latine. C'est pourquoi ils ont choisi cet endroit qui les mettait un petit peu à distance de l'Europe et des tensions qui peuvent peut-être effectivement s'accumuler dans l'histoire autour de ces deux églises. Et ils se sont rencontrés 3 heures à l'aéroport de La Havane. Et ça a été un temps effectivement très, très riche et duquel ressort la signature d'un document commun dont on va parler aujourd'hui et qui est une étape importante dans le rapprochement entre cette église orthodoxe russe, les orthodoxes en général, et puis bien entendu l'église catholique.
Donc catholique et orthodoxe proclament un même baptême, c'est ça quand même ça.
Bien sûr, nous sommes chrétiens.
Mais alors quelle est l'histoire de ce schisme ?
Alors effectivement, il faut revenir très longtemps en arrière puisque ce schisme, il a plus de 1000 ans. Hein, D'ailleurs, dans leur déclaration commune, ils parlent de 1000 ans de vie commune, entre guillemets. Et puis il y a derrière plus de 1000 ans puisque c'est en 1054. La date qu'on retient pour le schisme, bien entendu, ce n'est pas un jour, une heure que le schisme s'est produit, c'est un long processus. Mais donc il faut comprendre ce qui se passait à l'époque, c'est qu'on revient même plus en amont, c'était l'Empire romain. Hein. Mm-hmm. Et donc l'Empire romain est devenu chrétien avec l'empereur Constantin, qui s'est fait baptiser pratiquement à la fin de sa vie, mais qui, lui, avait déménagé, entre guillemets, le centre de l'Empire romain à Istanbul aujourd'hui, qui était Byzance à l'époque et qui est devenu Constantinople, puisque c'est lui qui l'a rebaptisé ainsi. Et donc, le point central de l'Empire romain ayant changé, ça a eu une influence sur l'Église, puisqu'il existait toujours l'Église de Rome, l'Église historique de Rome, et puis l'église de Constantinople qui a pris de plus en plus d'importance. Et au fil de l'histoire, donc ça c'était au IVe siècle, au fil de l'histoire, chacun a vécu sa vie, on pourrait dire. La distance s'est agrandie entre ces deux églises. Et puis entre l'église d'Occident et l'église d'Orient, donc, un éloignement progressif autour des questions de liturgie, autour des questions du sacerdoce, autour des questions de l'autorité dans l'église. Il y a eu toute une grande discussion autour des images, du rôle des images dans la foi, les iconoclastes, on appelait ça la question des icônes. Et puis donc, au bout du compte, les deux églises se sont tellement éloignées qu'il y a eu cette séparation qu'on date de 1054, où chaque église a excommunié l'autre. Et puis voilà, donc depuis...
C'est surtout des questions politiques, on pourrait dire ?
Oui, enfin, pas uniquement politiques, mais c'est vrai que sur le fond de la théologie de la foi, il y a quand même très peu de différences.
On reconnaît le même Dieu, la Trinité.
Ouais, absolument, oui, c'est les fondamentaux de la foi chrétienne sont vraiment très 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 proches. Donc c'est pas tellement des choix théologiques, plutôt que historiques, géographiques, politiques, et puis ecclésiologiques quand même, parce que les églises orthodoxes en général sont beaucoup moins centralisées que l'église catholique romaine, hein, qui est par l'histoire en plus est devenue plus centralisée encore par la suite.
D'accord.
Alors après, là-dessus, il y a les églises slaves qu'il faut noter, puisque Kirill est patriarche de Russie, donc il n'est pas de Constantinople. Comment ça se fait qu'il est, que cette église est orthodoxe? Mais c'est parce que en 862, l'empereur de Moravie, qui est la Tchéquie aujourd'hui, a demandé des missionnaires pour venir annoncer la bonne nouvelle. Dans son pays, et c'est Cyril et Méthode, dont on a entendu parler, les saints Cyril et Méthode, hein, qui sont venus, c'est des moines donc d'Orient, qui sont venus évangéliser la Tchéquie aujourd'hui, Moravie à l'époque, puis ensuite la Bulgarie est devenue chrétienne, et la Russie en 989 est devenue chrétienne, et donc orthodoxe, rattachée, est restée rattachée à l'église de Constantinople, et donc orthodoxe. Voilà, ça explique pourquoi l'église orthodoxe russe, l'église russe est majoritairement orthodoxe. Il y a aussi des catholiques en Russie, bien sûr, mais très minoritaire. Et puis, cette église orthodoxe russe, il faut savoir que c'est la plus importante de toutes les églises orthodoxes. Elle compte aujourd'hui 150 millions, à peu près 150 millions de fidèles sur 250 millions d'orthodoxes dans le monde entier.
D'accord. Oui.
Voilà, donc d'où l'importance de cette rencontre entre le pape François et le patriarche Kirill, parce que c'est la rencontre avec le patriarche de l'église orthodoxe la plus importante. Mmh. Et puis le contexte, c'est qu'il va y avoir au mois de juin 2016, de cette année, donc en Crète, un concile panorthodoxe, c'est-à-dire une rencontre de toutes les églises orthodoxes du monde. Mmh. Et donc ce rapprochement prend aussi sens dans cette perspective.
Donc beaucoup de choses sur des îles finalement, hein, la Havane.
Oui, c'est vrai, mais là c'est la Crète qui est au cœur un petit peu de ces églises orthodoxes, hein, parce qu'il y a l'église orthodoxe de Grèce qui est très importante également. Mmh. Voilà, alors donc...
On a entendu parler de tensions entre, on va dire, Rome et puis Moscou pour les églises concernant l'Ukraine.
Oui, alors là, l'Ukraine, en Ukraine, il y a des orthodoxes, bien sûr, mais il y a aussi des gréco-catholiques, ce qu'on appelle les gréco-catholiques, donc des catholiques orientaux rattachés à Rome, qui sont en Ukraine. Et ils ont, bien entendu, l'histoire fait que cette église a été, on peut dire, martyrisée presque, hein, par d'abord les bolcheviks. Hein. Pendant 70 ans, cette église a été interdite. Et puis ensuite, elle a été de nouveau autorisée, mais avec des tensions qu'on connaît. Et puis le lien entre le patriarche Kirill et Vladimir Poutine est important. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont tous les deux la même optique, entre guillemets, pour la Russie, de redonner la grandeur à la Russie. Et donc l'Ukraine, vous savez ce que l'histoire récente de l'Ukraine est en train de vivre, c'est même pas l'histoire récente, c'est l'actualité d'aujourd'hui. Hein. Donc du coup, l'église gréco-catholique d'Ukraine a bien peur que d'être de nouveau martyrisée ou dans des grandes difficultés. C'est pourquoi ils n'ont pas vu d'un très bon œil cette rencontre entre le pape François et le patriarche Kirill, parce qu'ils ont eu un peu l'impression que le pape, entre guillemets, les abandonnait au profit de l'église orthodoxe russe, ce qui n'est pas le cas si on lit bien le texte commun que les deux ont signé. Ce n'est pas le cas, mais on peut comprendre cette réaction qui est viscérale presque pour eux.
Alors justement, en venons-en aux points là qui ont été annoncés, parce que je pense que c'est quelque chose qui a été extrêmement travaillé, puisque c'est la première fois qu'ils se voient. Je pense qu'en amont, il y a dû y avoir énormément d'échanges et de travail.
Voilà. Alors ce texte qu'ils ont signé, donc qu'ils appellent la déclaration conjointe, elle a été préparée bien sûr de longue date. Cette rencontre a été préparée même depuis 2013, on en parle. Elle a été maintenue secrète jusqu'au 5 février. Elle a été annoncée officiellement le 5 février seulement, parce qu'il fallait justement arriver à se mettre d'accord sur ce texte qu'ils allaient signer ensemble. Et c'est un texte, de fait, très important, hein, puisqu'il vient mettre fin à plus de mille ans de rupture. Enfin, l'unité n'est pas faite, mais c'est un pas énorme quand même de rapprochement.
Quoi.
On arrête de s'ignorer et de se... Oui, c'est ça, on se parle. Mmh. Et d'ailleurs, c'est comme ça que commence le texte, hein, dans la partie 1. « Avec joie, nous nous sommes retrouvés comme des frères dans la foi chrétienne qui se rencontrent pour se parler de vive voix, de cœur à cœur, et discuter des relations mutuelles entre les églises, des problèmes essentiels de nos fidèles et des perspectives de développement de la civilisation humaine. » Donc dans cette introduction, c'est au point 1, là, il brosse bien les trois domaines dans lesquels, desquels ils ont parlé et bien entendu, qui sont dans cette déclaration conjointe.
C'est très large. J'ai l'impression que tous les mots étaient extrêmement pesés. Hein.
Extrêmement pesés. Ouais. Extrêmement pesés en amont avec Hilarion, qui est le responsable des relations extérieures, on pourrait dire, de Kirill, et qui est venu à Rome plusieurs fois. Kirill lui-même était venu à Rome, d'ailleurs, rencontrer le pape Benoît XVI, mais il n'était pas encore patriarche à l'époque. Ah. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est la première fois qu'il y a cette rencontre. Au point 3, il y a quelque chose qui dit sur le. Qui explique que la situation de Cuba. Nous étant rencontrés loin des vieilles querelles de l'ancien monde, nous sentons avec une force particulière la nécessité d'un labeur commun des catholiques et des orthodoxes. Donc, ils sont loin des vieilles querelles de l'ancien monde à Cuba, et en même temps, dans cette région d'Amérique latine où le catholicisme, où les religions, les différentes confessions chrétiennes, pardon, sont plutôt en développement, que chez nous, c'est au contraire un petit peu dans le sens contraire. Ils disent bien qu'ils sont conscients des nombreux obstacles qui restent. Hein. Ils ne sont pas naïfs. Cette rencontre ne met pas fin à 1000 ans de rupture, mais ils ouvrent une voie. Au point 7, il y a un point qui donne l'ouverture sur le monde. Parce que justement, ils ne sont pas là simplement pour parler de leur rapprochement entre eux, mais ils sont là aussi pour porter ensemble un regard sur le monde et essayer d'avoir une voie commune. La civilisation humaine est entrée dans un moment de changement d'époque. Notre conscience chrétienne et notre responsabilité pastorale ne nous permettent pas de rester inactifs face aux défis exigeant une réponse commune. Voilà. Mmh. Donc il se propose de relever ces défis du monde contemporain et de porter une parole commune sur ce monde contemporain. C'est aussi pour ça que c'est très important cette rencontre.
Et particulièrement les questions liées au massacre des chrétiens.
Voilà. Alors ça, c'est effectivement un des premiers points qu'ils abordent tout de suite après les paragraphes 9, 10, 11, 12, où il y a un appel très, très, très vif à la communauté internationale en faveur des chrétiens persécutés. Alors, il parle des chrétiens du Proche-Orient et d'Afrique du Nord. Et puis après, il se concentre sur les chrétiens du Proche-Orient, principalement en Syrie et en Irak. Nous appelons la communauté internationale à mettre fin à la violence et au terrorisme et simultanément à contribuer par le dialogue à un prompt rétablissement de la paix civile. À propos de l'Irak et de la Syrie. Bon, il y a 3-4 paragraphes qui sont consacrés au Proche-Orient. Et puis, il y a une phrase très belle que je voudrais vous lire, qui est dans le paragraphe 12, toujours à propos de ces martyrs. « Nous croyons que ces martyrs de notre temps, issus de diverses églises, il y a des catholiques, il y a des orthodoxes, et de différentes, issus de diverses églises, mais unis par une souffrance commune, sont un gage de l'unité des chrétiens. » Alors, que l'unité des chrétiens... Ils font l'acte de foi disant que l'unité des chrétiens peut se fonder sur ces martyrs, comme l'Église s'est fondée sur ces martyrs dès les premiers siècles.
Ils ont souffert au nom du Christ. Quoi.
Voilà. Après, il parle du dialogue interreligieux comme étant un point important dans ces régions, et en insistant beaucoup sur le fait qu'aucun crime ne peut être commis au nom de Dieu. L'Europe. Alors il y a aussi un regard sur l'Europe, et un regard qui est en termes un petit peu d'alerte, en disant l'Europe doit rester fidèle à ses racines chrétiennes. Nous appelons les chrétiens européens d'Orient et d'Occident à s'unir pour témoigner ensemble du Christ et de l'Évangile, pour que l'Europe conserve son âme formée par 2000 ans de tradition chrétienne. Voilà. Il parle également des migrants et des réfugiés, justement dans nos pays, puisque c'est une conséquence de ce qui se passe dans le Proche-Orient. Il parle de la famille, de l'importance de la famille, du droit inaliénable à la vie. Ils ont deux paragraphes au 22-23 à direction de la jeunesse chrétienne et de son rôle. « Vous êtes la lumière du monde », dit-il. Et puis, il termine en disant « Nous ne sommes pas concurrents, mais frères ».
Et bien voilà, quelque chose qui incite à aller plus loin. Merci beaucoup Didier. Vous retrouverez toute la déclaration sur le site internet du diocèse de Chartres, diocèse-chartres.com. Merci Didier pour cet éclairage.
Merci à vous.
Et puis à très bientôt sur
Libre Propos. Volontiers.
Merci, au revoir.
Au revoir.